Dans le nord de l'État de New York, les prémices de l'aube commençant à souligner les contours sombres de l'horizon derrière eux, ils prirent à l'ouest par la route 92, une nationale plus ou moins parallèle à l'I-90, jusque dans l'Illinois, où elle déviait vers le sud et se perdait dans la ville industrielle de Rockford. À cette heure-là, la route était encore quasi déserte, même s'ils entendaient, et apercevaient parfois, l'intense trafic de poids lourds sur l'autoroute à leur gauche. Ils dépassèrent un panneau indiquant « aire de repos 3 km » et Maurice pensa à Macbeth. Si une fois fait c'était fini, il serait bon que ça soit vite fait. Pas la citation exacte peut-être, mais on n'allait pas chipoter. « Arrête-toi là, » dit-il à Freddy. « Faut que j'aille vidanger. » « Ils doivent avoir des distributeurs aussi !» intervint le vomito à l'arrière. Curtis était en train de se redresser, les cheveux en pétard. « Je me ferais bien des crackers au beurre de cacahuète, moi !» Maurice savait qu'il devrait renoncer s'il y avait d'autres voitures sur l'aire de repos. L'I-90 avait absorbé la plupart de la circulation inter-État qui transitait auparavant par cette route, mais une fois que le jour serait levé, la circulation locale reprendrait à tout va, lâchant ses gaz nauséabonds de Plouqueville en Plouqueville. Pour le moment, l'aire de repos était déserte, en partie à cause du panneau indiquant « stationnement de nuit interdit au camping-car ». Ils se garèrent et descendirent de voiture. Des oiseaux gazouillaient dans les arbres, commentant la nuit passée et le programme de la journée. Quelques feuilles d'automne, sur cette partie du globe elles commençaient tout juste à changer de couleur, tombaient en tourbillonnant et s'éparpillaient au sol. Curtis partit inspecter les distributeurs pendant que Maurice et Freddy marchaient côte à côte vers les toilettes pour hommes. Maurice ne se sentait pas spécialement nerveux. Peut-être que c'était vrai ce qu'on disait. Après le premier, ça devient plus facile. Il tint la porte à Freddy d'une main et sortit le revolver de la poche de sa veste de l'autre. Freddy lui dit merci sans se retourner. Maurice laissa la porte se rabattre derrière lui avant d'élever le flingue. Il plaça le canon à moins de 2 cm de l'arrière du crâne de Freddy Doe et pressa la détente. Dans la pièce carrelée, la détonation rendit un son fort et sec. Mais de loin, n'importe qui aurait cru que c'était une moto pétaradant sur l'I-90. Non, c'était Curtis qui l'inquiétait. Pas la peine. Curtis était toujours debout dans le coin des distributeurs, sous un avant-toit en bois et un écriteau rustique indiquant « Oasis routière ». Il avait un sachet de crackers au beurre de cacahuète à la main. « T'as entendu ça ?» demanda-t-il à Maurice. Puis voyant le flingue, sur un ton honnêtement incrédule, « C'est pourquoi ?»« Pour toi !» répondit Maurice. Et il lui tira une balle dans la poitrine. Curtis s'effondra. Mais ce fut un choc pour Maurice. Il n'était pas mort. Il ne semblait même pas prêt de mourir. Il se tortillait sur le bitume. Une feuille morte lui tourbillonna devant le nez. Du sang commençait à se répandre sous lui. Il avait toujours la main refermée sur ses crackers. Il leva la tête, ses cheveux noirs et gras lui tombant dans les yeux. Derrière le rideau d'arbres, un camion passa sur la route 92, vrombissant vers l'est. Maurice ne voulait pas tirer une deuxième fois sur Curtis. Dehors, une détonation ne rendrait pas le même son creux. Et puis un véhicule pouvait arriver d'un moment à l'autre. Si une fois fait, c'était fini, il serait bon que ça soit vite fait, dit-il, et il posa un genou à terre. « Tu m'as tiré dessus ?» dit Curtis, le souffle court, stupéfait. « Putain, Maury, tu m'as tiré dessus !» Pensant à quel point il détestait ce surnom, il l'avait détesté toute sa vie. Même ses profs, qui auraient dû être plus avisés, s'étaient permis de l'appeler Maury. Il retourna le revolver et se mit à frapper le crâne de Curtis avec la crosse. 3 coups violents accomplirent bien peu. C'était qu'un 38 après tout, et pas assez lourd pour causer plus que des dégâts mineurs. Du sang commençait à couler du cuir chevelu de Curtis et le long de ses joues mal rasées. Il gémissait en levant vers Maurice un regard bleu fixe et désespéré. Il agita faiblement une main.
« Arrête, Maury, arrête, ça fait mal !»
Merde, 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 merde! Maurice rangea le revolver dans sa poche. La crosse était gluante de sang et de cheveux à présent. Il retourna à la Biscayne en s'essuyant la main sur sa veste. Il ouvrit la portière côté passager, vit que la clé manquait sur le contact et murmura un « putain » dans sa barbe. Le murmura comme une prière. Sur la 92, deux voitures passèrent, puis une camionnette UPS marron. Il trotta jusqu'aux toilettes pour hommes, poussa la porte, s'agenouilla et se mit à fouiller les poches de Freddy. Il trouva les clés de la voiture dans sa poche avant gauche. Il se releva et courut jusqu'au distributeur, certain que maintenant, une voiture ou un camion serait arrivé sur l'aire de repos. La circulation devenait toujours plus dense. Quelqu'un allait bien devoir s'arrêter pour pisser son café du matin. Et alors, il devrait tuer celui ou celle-là aussi, et peut-être bien le suivant. L'image d'une guirlande de bonshommes en papier découpé lui vint à l'esprit. Mais non, personne pour le moment. Il monta dans la Biscayne, acheté en toute légalité, mais portant maintenant des plaques volées immatriculées dans le Maine. Curtis Roger se contorsionnait lentement le long du trottoir en ciment menant aux toilettes, tirant avec les mains et poussant faiblement avec les pieds, laissant derrière lui une traînée de sang tel un escargot une traînée de bave. Il était impossible d'en être vraiment sûr, mais Maurice pensa qu'il était peut-être bien en train d'essayer de rejoindre le téléphone payant fixé au mur entre les toilettes pour femmes et les toilettes pour hommes. C'était pas comme ça que ça devait se passer, se dit-il en démarrant. C'était de l'improvisation stupide et il allait sûrement se faire prendre. Il repensa à ce que Rothstein lui avait dit à la fin. « Vous avez quel âge d'abord, 22 ans, 23 ans? Qu'est-ce que vous connaissez à la vie, sans parler de la littérature ?»« Ce que je sais, c'est que je suis pas un vendu, » dit-il. « Ça, je le sais. » Il mit la Biscayne en marche avant et roula lentement vers l'homme qui se tortillait comme une anguille sur le trottoir en ciment. Il voulait foutre le camp d'ici. Son cerveau lui hurlait de foutre le camp d'ici, mais il devait s'appliquer, pas faire plus de gâchis que le strict nécessaire. Curtis se retourna pour regarder, les yeux immenses et horrifiés, derrière la jungle de ses cheveux sales. Il leva une main dans une faible tentative pour dire « stop », puis Maurice cessa de le voir, car le capot était entre eux. Il braqua prudemment et continua de rouler lentement. L'avant de la voiture monta dans une secousse le bord du trottoir. Le sapin désodorisant accroché au rétroviseur se balança et tressauta. Rien, toujours rien. Et puis, la voiture franchit un autre obstacle. Il y eut un « pop » assourdi, le bruit d'une petite citrouille éclatant au micro-ondes. Maurice donna un coup de volant vers la gauche et il y eut une autre secousse alors que la Biscayne redescendait du trottoir et revenait sur le parking. Il regarda dans le rétroviseur et vit que la tête de Curtis avait disparu. Enfin, non, pas vraiment. Elle était toujours là, mais tout aplatie, réduite en bouillie. Pas de talent gâché dans ce carnage-là, pensa Maury. Il roula vers la sortie, et après s'être assuré que la voie était libre, il accéléra. Il faudrait qu'il s'arrête pour examiner l'avant de la voiture, surtout le pneu qui avait écrasé la tête de Curtis, mais il voulait d'abord s'éloigner d'une bonne trentaine de kilomètres. Au moins 30. « Je vois un lavage auto dans un futur proche, » dit-il. Il trouva ça drôle, incommensurablement drôle. Et voilà bien un mot que ni Freddy ni Curtis n'auraient compris. Et il rit longtemps et fort. Il s'en tint exactement à la vitesse limitée. Il regarda les kilomètres tournés au compteur, mais même à 80 à l'heure, chaque tour semblait prendre 5 minutes. Il était sûr que le pneu avait laissé une trace de sang sur la bretelle de sortie, mais elle devait avoir disparu à présent. Depuis longtemps. Quand bien même, il était temps de rejoindre les routes secondaires, peut-être même les chemins de campagne. Le truc intelligent serait de s'arrêter et de jeter tous les carnets, le fric aussi, dans les bois. Mais ça, il ne le ferait pas. Non, jamais il ferait ça. 50% de chance de s'en tirer, se dit-il. Peut-être plus. Après tout, personne n'a vu la voiture, ni dans le New Hampshire, ni sur l'aire de repos. Il s'arrêta sur le parking latéral d'un restaurant abandonné et inspecta la calandre de la Biscayne et le pneu droit. Ça allait plutôt dans l'ensemble. Mais il y avait un peu de sang sur le pare-choc. Il arracha une poignée d'herbe et l'essuya. Il remonta en voiture et continua vers l'ouest. Il s'attendait à tomber sur des barrages de police, mais rien. Passé la frontière avec la Pennsylvanie, à Gowanda, il trouva une station de lavage automatique à pièces. Les brosses brossèrent, les jets rincèrent, et la voiture ressortit propre comme un sou neuf, dessus comme dessous. Maurice roulait vers l'ouest, en direction de la petite ville crade que ses habitants appelaient le joyau des Grands Lacs. Il fallait qu'il se tienne à carreau pendant un moment maintenant, et qu'il aille voir un vieil ami. Et puis, chez soi, c'est l'endroit où, quand t'arrives, on peut pas te demander de repartir. L'Évangile selon Robert Frost. Et c'était particulièrement vrai quand personne n'était là pour pester contre le retour du fils prodigue. Avec ce cher papa envolé depuis des années, et cette chère maman passant le semestre d'automne à Princeton à donner des conférences sur les barons voleurs, la maison de Sycamore Street serait vide. Une maison laissant un peu à désirer pour une professeure prout-prout comme elle, sans parler d'une écrivaine nominée un jour pour le Pulitzer, mais c'était la faute à ce cher papa. Lui, Maurice, ça l'avait jamais dérangé d'habiter là. C'était le ressentiment de sa mère, pas le sien. Maurice écouta les infos, mais rien sur le meurtre du romancier qui, selon le fameux article du Time, avait été « une voix criante aux enfants des silencieuses années 50 de se réveiller et d'élever eux aussi la voix ». Ce silence radio était une bonne nouvelle, mais pas inattendue. Selon la source de Maurice à la maison de redressement, la femme de ménage de Rothstein venait seulement une fois par semaine. Il avait aussi un homme à tout faire, mais qui venait seulement à la demande. Maurice et ses défunts partenaires avaient choisi leur moment en fonction, ce qui voulait dire qu'ils pouvaient raisonnablement espérer qu'on ne découvre pas le corps avant les 6 prochains jours. Cet après-midi-là, dans la campagne de l'Ohio, il dépassa une grange reconvertie en magasin d'antiquités et fit demi-tour. Après avoir fouiné un peu, il acheta une malle à $20. Elle était vieille, mais paraissait costaud. À ce prix-là, Maurice trouva que c'était donné.